21h passées de quelques secondes sur Radio N. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Un numéro de Wagon Livre ce soir consacré au compte-rendu de la 10e édition de Livres en Vigne, événement littéraire d'importance qui s'est tenu les 23 et 24 septembre dernier. C'était cette année la 10e édition de la première fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. C'est un événement créé par Evelyne Philippe qui nous a concocté une très belle édition comme d'habitude. Et ce soir, dans Wagon Livre, eh bien, c'est la troisième et dernière partie d'un compte-rendu non exhaustif que nous voulons rendre autour de ce très bel événement au château du Clos de Vougeot, comme vous le savez sans doute, situé, lui, entre Beaune et Dijon. Cette année, d'ailleurs, l'édition était présidée par le philosophe Luc Ferry. Nous allons ce soir parler politique avec notamment Denis Tillinac. Denis Tillinac qui a fait paraître un nouvel essai aux éditions Albin Michel intitulé « L'âme française », un essai qui appelle la droite à retrouver dans l'histoire de France ses racines spirituelles, intellectuelles, morales et esthétiques. Nous irons aussi du côté de l'Élysée avec Patrice Duhamel. Patrice Duhamel qui signe aux éditions Plomb, l'Élysée, histoire, secret, mystère, une nouvelle édition mise à jour, enrichie et illustrée. Cet ouvrage est disponible aux éditions Plomb. Mais nous ouvrons ce compte-rendu de Livres en Vigne avec Jean-François Bazin, journaliste, écrivain, ancien président du Conseil régional de Bourgogne. Jean-François Bazin qui signe aux éditions Dunod un ouvrage intitulé « Le vin de Bourgogne » qui date d'ailleurs de 2013. C'est une réédition enrichie, améliorée d'une version qui datait de 1996. Et justement, comme Jean-François Bazin est un des meilleurs connaisseurs, un des meilleurs spécialistes de l'histoire du vin de Bourgogne, je souhaitais qu'il nous rappelle ce qu'était le Clos de Vougeot, ce château du Clos de Vougeot. Clos de Vougeot qui est à la fois un vignoble, un vin et un château vigneron. Jean-François Bazin.
C'est à la fois un vignoble, un vin et un château vigneron. C'est aussi beaucoup d'autres choses, puisque c'est la plus belle table d'hôtes de France. Chaque samedi soir, quelques 500 convives célèbrent à la fois l'amitié bourguignonne et le vin de notre région.
L'histoire du château du Clos de Vougeot est étroitement liée à celle de l'abbaye de Citeaux, qui est apparu en 1098, extrême fin du 11e siècle.
Oui. Ce n'est pas un ou deux ans près, mais dès 1100, pour dire les choses simplement, on a planté ici de la vigne, probablement parce que c'est ce qui restait disponible. Cluny était déjà là. Un certain nombre d'autres monastères étaient déjà présents. Donc probablement, sitôt, on lui a donné ce qui restait. C'était tout de même pas mal. Et la démarche de sitôt, ça a été un peu une démarche bordelaise, c'est-à-dire de faire un clos de 50 hectares où il y avait plusieurs climats. Le climat n'est pas forcément synonyme d'appellation en Bourgogne, même si le climat est très important. Il y avait une quinzaine de climats différents au sein des 50 hectares du Clos de Vougeot. Et les moines de Citeaux ont su patiemment en faire quelque chose de grand, en sélectionnant les cépages, en apprenant à vinifier. Et finalement, un abbé bien inspiré y a établi non seulement une cuverie, qui existait d'ailleurs avant lui, mais il a établi un petit château symbole de la Renaissance bourguignonne qui permet d'accueillir tous nos visiteurs dans un lieu qui appartient au fond à toute la région.
Alors, influence cistercienne durant 680 ans. Et puis, en 1789, ce château est déclaré bien national. Il a même été vendu en bloc en 1791.
Alors, ça a été par saut de puce, parce que il y a eu d'abord une vente qui a été quelque peu annulée, il y en a eu ensuite une autre, et c'était surtout des aventuriers parisiens, des marchands de biens, qui achetait ça. Hein. Ce n'était pas du tout le peuple bourguignon qui devenait propriétaire du Clos Vougeot à la place des moines. Non, en réalité, c'était des financiers parisiens et qui d'ailleurs se sont disputés les uns les autres. Et finalement, à la fin, l'un a pris le pouvoir. C'était d'ailleurs un homme qui a fait parler de lui, puisque c'était le financier privé de Napoléon, et c'est lui qui payait cet ouvrard, qui s'appelait Ouvrard, qui payait les campagnes militaires de Napoléon, ou ne les payait pas d'ailleurs. Et son fils est devenu le propriétaire, et le Clos est donc resté en monopole, c'est-à-dire non séparé, jusqu'à la fin du XIXe siècle, où à ce moment-là, ses enfants ont vendu. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a eu la scission de nombreuses parcelles qui ont appartenu petit à petit à des propriétaires bourguignons.
Alors avançons un peu dans le temps. En 1889, Léonce Boquet s'adjuge donc une quinzaine d'hectares et il devient propriétaire du château. Alors Léonce Boquet, il est négociant en vin à Savigny-les-Baunes et on a dit qu'il s'était ruiné en restaurant le château du Clos de Vougeot.
Oui, peut-être s'est-il ruiné, mais et il est vrai qu'il a consacré beaucoup de sa fortune pour restaurer cette bâtisse qui était en ruine et qui méritait bien d'avoir des aménagements de qualité. Alors, est-ce qu'il s'est vraiment ruiné ? Peut-être pas, puisqu'il avait quand même beaucoup de vignes, beaucoup de propriétés, et le château du Clos de Vougeot n'en était qu'une. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que tout le décor que l'on voit dans ce salon du livre au premier étage, c'est un décor qui lui est dû, qui est un décor 1900.
Alors, des gens très célèbres, ils sont venus, la comédienne Sarah Bernhardt, par
exemple. Sarah Bernhardt, d'autres encore, des écrivains, des peintres, des hommes d'église d'ailleurs, hein, puisqu'il y a une chapelle, ce qu'on ne sait pas toujours, au sein du Clos Vougeot, il y a une chapelle, à vrai dire, qui n'est plus guère ouverte, mais ça a été béni par l'évêque de Dijon qui était venu spécialement pour ça.
Alors Léonce Boquet est mort en 1913. Il est inhumé devant le château.
Il a obtenu, enfin du moins sa veuve, mais je crois que c'était même lui qui l'avait souhaité. Et en signe de reconnaissance, on a fait cette exception pour lui, puisqu'en principe, on ne peut pas être enterré chez soi. Mais dans le cas présent, il avait tellement fait pour la Bourgogne qu'on pouvait l'autoriser à reposer face au château.
Jean-François Bazin, en cette année 2017, qui est le propriétaire du château du Clos de Vougeot ?
Eh bien, il y en a quatre. Ce sont quatre familles bourguignonnes, enfin trois familles bourguignonnes et une famille parisienne qui ont, à l'époque, acheté le château du Clos de Vougeot, pas les vignes, hein, le château. Lorsque celui-ci a été vendu, disons dans les années 1920-1930, et ils l'ont fait, c'était M. Camuset, député du coin qui en était propriétaire, ils l'ont fait parce que M. Camuset ne souhaitait pas que la confrérie en devienne propriétaire. Il disait, oui, mais un jour, la confrérie va devenir américaine, etc. Oui, enfin, il avait ce genre de sentiment. Et donc, il a vendu à quatre propriétés, dont trois très connues en Bourgogne, dans le Nuiton, avec charge pour eux, ce qui a été respecté jusqu'à présent, c'est de le mettre au profit de la Bourgogne tout entière. Donc, on peut dire que ces personnes sont des personnes qui ont apporté beaucoup à la vie bourguignonne, mais puisqu'ils sont propriétaires d'un château dont elles ne profitent pas.
À l'heure actuelle, le vin du Clos de Vougeot représente 230 000 bouteilles par an.
Ah oui, puisque ça fait 50 hectares, donc c'est une très grande propriété.
Et avec quoi doit-on consommer le vin du Clos de Vougeot ? Quelle viande ? Que recommandez-vous, Jean-François Bazin ?
Oh, bon, je pense que c'est plutôt effectivement une viande. Ça peut être un bon rôti, ça peut être
Hein, du
une
gibier.
Côte, une côte de bœuf, ça peut être du gibier. Bon, on en consomme moins qu'à une certaine époque, mais ça peut être aussi le fromage. Clos Vougeot peut très bien honorer un citeau ou encore un époisse.
Un époisse. Ou alors, dans Lyon, un sous-marin ?
Eh bien, pourquoi pas ? Un sous-marin.
Jean-François Bazin, puisque vous êtes un des meilleurs connaisseurs de l'histoire du vin de Bourgogne, j'aimerais que vous nous parliez de cette confrérie des chevaliers du Tatevin et peut-être rappeler ce qu'est un Tatevin. Alors, ça s'écrit Tastevin ?
Alors, on ne dit pas Tastevin, on dit Tatevin. Ben, tâter le vin, c'était le goûter. Donc, c'est un vieux mot français. Le Tatevin, c'est la petite tasse en métal qui est fabriquée de façon particulière avec des cupules, de façon à pouvoir le déguster le vin et particulièrement le vin rouge. Ce Tatevin, naturellement, a inspiré une confrérie en 1934. Et celle-ci est la première de toutes les confréries du monde. Maintenant, il y en a partout, sur les 5 continents. Vous avez des confréries qui s'occupent de tout, du fromage, du vin, mais de beaucoup d'autres choses aussi. Et on peut dire que les gens de Nuits-Saint-Georges avaient de l'imagination parce qu'on s'aperçoit que de 1934 à nos jours, ça ne s'est pas si mal porté, ce tas de vin.
Alors, vous-même, êtes-vous membre de cette confrérie chevaliers du Tatevin ?
Oui, naturellement, depuis très longtemps. Mais étant bourguignon, habitant à 3 km et ayant été journaliste, écrivain, naturellement, la confrérie m'a demandé d'y parler, parfois d'écrire dans sa revue. Enfin, je suis un ami du Tatevin.
En tout cas, à l'heure actuelle, cette confrérie des chevaliers du Tatevin compte plus de 10 000 membres.
Oui, c'est ce qu'on dit.
Aux quatre coins du monde.
Aux quatre coins du monde, elle a réussi une ambassade assez étonnante et extraordinaire, puisqu'elle a abordé maintenant l'Asie, alors qu'elle était plutôt orientée vers les États-Unis, vers l'Amérique. Et l'Asie, c'est un défi très important. D'abord le Japon, Singapour, et puis maintenant la Chine.
À l'instant, dans Wagon Livre, c'était Jean-François Bazin, l'un des meilleurs connaisseurs du vin de Bourgogne et de l'histoire du vin de Bourgogne, docteur en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, journaliste et écrivain, ancien président du Conseil régional. Son ouvrage est disponible en librairie aux éditions Duno. Il a pour titre « Le vin de Bourgogne » avec une préface d'Aubert de Villaine. On va marquer, si vous le voulez bien, une première pause musicale et puis juste après, vous entendrez le journaliste Patrice Duhamel nous livrer quelques histoires, quelques secrets, quelques mystères de l'Élysée. C'est le titre de l'ouvrage qu'il a fait paraître avec Jacques Santamaria. C'est une nouvelle édition mise à jour, enrichie et illustrée et disponible aux éditions Plon. Très bonne soirée sur Radion, c'est votre émission littéraire et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
You're always gonna feel my love. There's something you're so angry. Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Passez une très belle soirée sur Radion. Merci en tout cas d'être avec nous dans votre émission littéraire. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour le compte-rendu de la 10e édition de Livres en Vigne, première fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. Une 10e édition cette année présidée par le philosophe Luc Ferry qui s'est tenue les 23 et 24 septembre au château du Clos de Vougeot. Mais nous allons dans un autre endroit, un palais, le palais de l'Élysée, avec le journaliste Patrice Duhamel. Patrice Duhamel et Jacques Santamaria font reparaître dans une nouvelle édition, mise à jour, enrichie et illustrée aux éditions Plon, leur essai intitulé « L'Élysée, histoire, secret, mystère ». Ce palais de l'Élysée, bien sûr, vous le connaissez en partie. C'est un palais qui, à l'origine, appartenait à Madame de Pompadour. Et Patrice Duhamel, lui, le connaît parfaitement. Patrice Duhamel à notre micro.
Je le connais pour y être allé depuis 1969. Donc ça va faire
50 ans, pratiquement 50 ans.
50 ans dans deux ans. Et quand j'ai fait la première édition avec Jacques Santamaria il y a 5 ans, j'avais calculé à peu près entre les moments où j'étais journaliste de base et où je suivais les activités des présidents de la République et le moment où je dirigeais des médias et où donc j'allais à l'Élysée pour des raisons institutionnelles, j'ai dû y aller à peu près 3000 fois, mais en 50 ans, hein, donc ça relativise.
Mais est-ce que vous connaissez voilà, chacune des pièces?
Non,
je connais,
il y a 365 pièces. Donc, alors d'abord, il y a deux lieux qui sont non seulement secrets, mais a priori totalement interdits.
Le PC Jupiter.
C'est le PC Jupiter qui a été construit en 78 sous Giscard et qui est au sous-sol, d'où le président de la République peut activer la force nucléaire. Alors je dis interdit, encore que moi j'y ai fait quelques pas dans le couloir, mais je ne suis pas allé au-delà. Donc en tout cas, on est dans le secret défense. Et puis les appartements privés, parce que les journalistes et même les amis n'ont pas à aller dans la chambre à coucher, la salle de bain ou le salon, enfin ou la salle à manger peut-être s'ils sont invités à déjeuner ou à dîner, mais du couple présidentiel. Sinon, je ne connais pas, bien entendu pas tous les bureaux, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, mais je connais toutes les pièces essentielles.
Est-ce que planerait une malédiction sur l'Élysée? C'est une question que vous posez dans
la préface
de ce livre.
Oui, parce qu'il y a à peu près la moitié des présidents de la République qui n'ont pas terminé leur mandat. Soit parce qu'ils ont démissionné, soit parce qu'ils ont été contraints à démissionner, soit parce qu'ils sont morts. Et donc, on en est aujourd'hui au 25e président. Et il y en a une douzaine qui n'ont pas terminé leur mandat si on part de Louis-Napoléon Bonaparte.
Est-ce que ce palais est fonctionnel? Parce que De Gaulle avait pensé s'installer aux Invalides.
Au château de Vincennes.
Au château de Vincennes également.
Oui, au musée Rodin, dans l'hôtel particulier du musée Rodin. Non, le palais, il est absolument pas fait pour y travailler. Tous ceux qui y ont été, que ce soit des présidents, des conseillers, on bien expliqué que c'était pas fait pour y travailler. C'est un palais qui était fait pour y habiter, pour faire la fête. C'est dans cet esprit-là qu'il a été construit en 1720. Ça va faire bientôt trois siècles. Il y a des grands salons d'apparat somptueux, splendides, pour y faire des réceptions. Mais par exemple, sauf à aménager difficilement des grands bureaux, il doit y avoir 3 salles de réunion à l'Élysée. Et en dehors du bureau présidentiel avec une salle de réunion à côté, c'est quand même très mal commode. Il faut monter dans les étages et descendre en permanence. Bon, c'est pas un exploit physique non plus, mais enfin disons que c'est assez compliqué. Et puis il y a le, alors ça c'est un autre aspect de la vie quotidienne à l'Élysée, c'est que on sent le poids de l'histoire. Quand on rentre dans le bureau du président de la République, on a l'impression qu'on va croiser le général de Gaulle. Voilà, et c'est vrai un peu partout dans le palais.
Est-ce qu'on peut envisager un jour un autre lieu où le président de la République pourrait siéger? Est-ce que les Français sont prêts à abandonner l'image du palais élyséen?
On peut tout envisager, mais d'abord, ça coûte très cher même. Et ensuite, il y a eu récemment, avant le premier tour de la présidentielle de cette année, ça devait être en février ou en mars, un sondage sur l'image du palais de l'Élysée. Et près de 70%, enfin plus des deux tiers des Français ont dit qu'ils aimaient ce palais, qu'ils y étaient attachés et que pour eux, il n'était pas question d'aller ailleurs. Voilà, c'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole de 3 siècles d'histoire de France. Il s'est passé des choses tout à fait extraordinaires.
Des mariages, des divorces,
des suicides, des morts, des malaises mortels, des présidents. On parle souvent du malaise mortel, alors c'est pas du tout de même nature. Hein. On parle souvent du malaise mortel de Félix Faure dans les bras de sa maîtresse. Mais on sait moins qu'un jour où le frère aîné du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, venait voir son frère, il a eu un malaise et qu'il est mort... quelques temps plus tard. Voilà, il y a eu beaucoup de choses dramatiques dans ce palais, mais il se passe rarement 24 heures sans qu'il y ait un événement particulier.
Ce qui est incroyable, on parle de la mort des présidents, alors certains ont été assassinés, alors qu'aujourd'hui, il y a, une sécurité presque sans faille autour des présidents de la République. Enfin, elle n'a jamais montré de défaillance, mais Sadi Carnot a été assassiné. Il y a eu aussi Paul Doumer qui a été assassiné par un fanatique russe. Là, c'est en 1932. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer la sécurité du président éventuellement être prise à défaut?
On peut tout imaginer, parce que les débats sur le terrorisme sont des débats sans fin, mais... Si quelqu'un veut, s'il y a un commando qui veut absolument assassiner le président de la République, je pense qu'il pourra peut-être y arriver. Vous avez parlé des deux présidents de la troisième qui avaient été assassinés. Pas oublier qu'il y a eu 4 attentats contre le général de Gaulle par l'OAS, dont le plus célèbre étant celui du petit Clamart, où s'il n'y avait pas eu le geste miraculeux du chauffeur qui a réussi à accélérer la DS au moment où elle était criblée de balles, il y a 9 chances sur 10, tout le monde l'a dit, le général lui-même, qu'il soit vraiment assassiné par le commando Bastien-Thierry.
De Gaulle avait dit, ces gens-là tirent comme des cochons, je crois.
Oui. Enfin, il leur en voulait surtout parce qu'ils avaient tiré sur une voiture où il y avait une femme et ils savaient qu'il y avait une femme. Et qu'en plus, le patron du commando, qui a été d'ailleurs exécuté, Bastien-Thierry, il n'avait pas tiré lui-même. De Gaulle considérait que pour un militaire... c'était pas bien de ne pas tirer. Il avait donné l'ordre, mais il n'avait pas tiré lui-même. Donc voilà, il trouvait qu'il y avait une forme de lâcheté.
Alors on a dit...
À l'Élysée, je m'imagine mal que le président puisse être attaqué. À l'extérieur, encore une fois, tout peut arriver. Kennedy a été assassiné. Des coups de feu ont été tirés contre Reagan. Et on sait que la sécurité américaine est encore plus pressante et plus organisée et plus nombreuse que la sécurité autour des présidents français.
À l'instant, c'était Patrice Duhamel dans Wagon Livre, enregistré le 23 septembre dernier lors de la 10e édition de Livre en Vigne pour son essai L'Élysée, histoire, secret, mystère, disponible aux éditions Plon. On marque, si vous le voulez bien, une nouvelle petite pause musicale et puis on reviendra avec lui sur d'autres secrets, d'autres mystères de l'Élysée. Très bonne soirée à toutes et à tous. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Merci d'être avec nous pour ce numéro de votre émission littéraire consacrée ce soir au compte-rendu de la 10e édition de Livres en Vigne. Livres en Vigne qui s'est tenue les 23 et 24 septembre dernier au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Un événement culturel créé par Evelyne Philippe qui a rassemblé une centaine d'écrivains de littérature générale et spécialistes du vin. Il y a quelques minutes sur Radion, vous avez pu entendre Jean-François Bazin qui rappelait d'ailleurs l'histoire du château du Clos de Vougeot. Le Clos de Vougeot, c'est à la fois un vignoble, un vin et un château vigneron. Nous poursuivons cette émission avec le journaliste Patrice Duhamel qui fait paraître avec Jacques Santamaria une nouvelle édition mise à jour de l'Élysée Histoire, Secret, Mystère, une édition enrichie et illustrée avec les plans de ce palais de l'Élysée, ainsi qu'une galerie de portraits de tous nos présidents de la République française. Ce palais, bien sûr, vous le connaissez, c'est celui qu'occupe actuellement notre président Emmanuel Macron. Et Patrice Duhamel rappelle effectivement que ce palais de l'Élysée, qui à l'origine était le palais de Madame de Pompadour, ce palais a vu bien sûr défiler beaucoup de grands personnages de l'État. On y naît, on y meurt, on s'y suicide parfois et parfois on en divorce. Il n'y a eu qu'un divorce à l'Élysée, il faut le noter, c'est celui de Cécilia et Nicolas Sarkozy. Mais il y a aussi d'autres mystères, par exemple celui sous la présidence Mitterrand de l'existence de la fille cachée du président François Mitterrand, Mazarine. Patrice Duhamel.
Jean-Éder Nallier a voulu révéler l'existence, mais le livre n'est jamais sorti. Mais bon, c'est une information qui circulait dans les rédactions, mais il est vrai qu'aucun journal français n'a fait état de cette fille et qui était pourtant née en décembre 1974. Donc ça durait Quand son père a été élu président de la République, elle avait déjà presque 7 ans.
En fait, il faut le dire tout de même, Patrice Duhamel, c'est que cette double vie, cette deuxième famille de Mitterrand a été protégée et nourrie quand même sur le
absolument,
compte du contribuable français, il faut
absolument,
le dire.
Absolument, ils habitaient dans des appartements qui normalement accueillent des conseillers ou des responsables du cabinet du président de la République, Quai Branly, à côté de la Tour Eiffel. Mais à partir du moment où sont des proches du président de la République, je pense que si les gens n'ont pas été choqués au-delà des polémiques classiques, c'est que je pense que l'opinion comprend qu'il faut protéger tous ceux qui sont proches du président et qui peuvent être considérés de près ou de loin comme des cibles. Donc voilà, c'est assez naturel. Et quand il y a eu les deux familles réunies le
aux
jour
obsèques.
Des obsèques de François Mitterrand, les Français, tous les échos qu'il y a eu ont été plus émus que choqués.
Alors vous disiez avoir énormément déambulé quand même dans le palais de l'Élysée. Est-ce que vous êtes allé dans les caves de l'Élysée ?
J'ai visité les cuisines de l'Élysée, qui sont très spectaculaires, où il y a des choses qui n'ont pas bougé depuis Napoléon III. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la cuisine, mais par exemple, il y a des plats en étain qui remontent à Napoléon III. C'est immense. Il y a une trentaine de cuisiniers au total. En général, c'est les meilleurs ouvriers de France. Le chef qui dirige les cuisines, qui s'appelle Guillaume Gomez, est l'un des plus grands cuisiniers français. Et puis il y a les caves pour le vin, et qui sont tout aussi spectaculaires. Et puis il y a une autre cuisine qui a été installée de l'autre côté du palais pour préparer des repas pour le couple présidentiel lorsqu'ils sont dans leurs appartements privés.
Alors vous dites notamment qu'en 2013, il y a eu une vente aux enchères d'une partie de la cave de l'Élysée qui a rapporté 700 000 euros.
Oui, mais il y a des bouteilles... bouteilles qui valent des fortunes. Et puis c'est extrêmement bien organisé parce que on sait à l'avance quand ce sont des chefs d'État ou de gouvernement qui sont déjà venus ou des souverains. On sait quel est le vin préféré de la reine Elisabeth, on sait quel est le vin préféré de la chancelière Merkel, on sait quel est le vin préféré du président des États-Unis. Et donc quand ils viennent pour des grands déjeuners ou des grands dîners, on sait déjà quel alcool il faut leur servir.
Alors, on a parlé ce matin de la maladie des présidents de la République, de l'état de santé des présidents de la République, qui fait l'objet souvent d'un bulletin officiel émis par l'Élysée. Il y a eu, bien sûr... Alors, vous avez parlé de Paul Deschanel en rappelant que c'était un homme extrêmement brillant. Alors, on a oublié qui était l'obscur Paul Deschanel, préféré effectivement à Clémenceau, d'ailleurs.
C'était un polytechnicien de grand talent qui avait fait une carrière politique assez jeune, qui... était le fils d'un grand scientifique, Émile Deschanel, qui était l'un des meilleurs amis de Victor Hugo, ce qui fait que Paul Deschanel en question était le filleul de Victor Hugo, parce que les deux familles s'étaient réfugiées en Belgique au moment du Second Empire. Et c'était un président qui a été élu en 1920 pour succéder à Raymond Poincaré, à un moment où tout le monde imaginait, après le triomphe de Clémenceau en 1917 et en 1918, que Clémenceau serait président de la République. Mais il avait tellement d'ennemis qu'il a compris qu'il n'avait aucune chance de gagner, donc il ne s'est pas présenté. Et c'est ce responsable politique qui était quand même pas non plus un homme de premier plan. Il n'avait jamais été président du Conseil, par exemple, qui a été élu. Et le malheureux a été atteint d'une maladie mentale au bout de quelques semaines, ce qui fait qu'il y a des épisodes célèbres, le plus célèbre étant celui où il descend d'un train, il tombe sur la femme d'un garde-barrière qui lui demande qui il est et à qui il répond qu'il est président de la République, etc. Mais on sait aussi qu'il grimpait dans les arbres de l'Élysée pour aller dialoguer avec les corbeaux dans un langage que je ne connais pas. Que de temps en temps, il se mettait à signer Vercingétorix ou Napoléon Ier son courrier, que quand des visiteurs venaient le voir, de temps en temps, il les prenait dans les bras en serrant tellement fort que certains risquaient d'être étouffés, etc., etc. Ce qui fait qu'il a dû démissionner au bout de 6 mois. Et voilà la, le destin de ce président Deschanel.
Alors, sous la Ve République, il y a bien sûr la maladie du président Pompidou.
Il y a 4 présidents sur 8. Macron est le 8e. Il y a 4 présidents sur 8 qui ont été sérieusement, gravement ou très, très gravement malades.
Alors, De Gaulle, déjà.
Alors, De Gaulle, qui... 4 ou 5 ans avant de revenir, enfin avant de la fin de la traversée du désert et avant d'être élu président de la République, avait eu une alerte grave avec une rupture d'anévrisme et qui, pendant son premier mandat, a eu une grave opération de la prostate qui l'a quand même éloigné de l'Élysée pendant 3 semaines. Aujourd'hui, ça paraît invraisemblable. Un président qui est absent pendant 3 semaines pour raison de maladie, ça paraît invraisemblable. Ensuite, il y a bien entendu Georges Pompidou, qui a su qu'il était malade gravement sans savoir exactement la nature de la maladie en 1972, donc 2 ans avant la fin de son mandat, qui a énormément souffert, qui a été d'un courage absolument extraordinaire. Mais ça a été, de ce qu'on explique dans le bouquin, c'est que ça a été à la fois un secret et des mensonges, puisque à un moment où il était chez lui, il venait une heure par jour ou 2 heures par jour à son bureau. Le travail était fait par son secrétaire général Édouard Balladur, par ses conseillers Pierre Juillet et Marie-France Garraud, et il annulait des grands dîners, il annulait des déplacements, il avait des malaises quasiment en permanence, et on disait qu'il avait soit une grippe à répétition, soit des hémorroïdes. Donc voilà. Et ensuite Mitterrand, bien entendu, qui a su qu'il était malade dès l'automne 81, c'est-à-dire 6 mois après son élection, et qui quand même est resté 14 ans à l'Élysée. Mais les 2 dernières années, il était vraiment dans un état absolument effrayant, des souffrances insupportables. Et on peut légitimement se poser la question de savoir si il pouvait, jusqu'à la fin, s'il y avait eu une grande crise politique, sociale, économique, financière, internationale, militaire, s'il avait pu... Alors certes, on était en cohabitation, une grande partie du pouvoir était exercé à Matignon par Édouard Balladur, mais est-ce qu'il aurait pu exercer ses responsabilités dans leur plénitude ? On peut légitimement se poser la question. Et rien n'est prévu dans la Constitution. Et puis le quatrième, c'est Chirac, qui, après son AVC, donc pendant 1 an et demi, 2 ans, a quand même été assez affaibli. Il était très fatigué, il entendait mal, et il était sans doute encore plus fatigué qu'on ne l'a dit. Donc c'est un sujet très difficile, d'abord douloureux pour les gens en question, deuxièmement difficile parce que ça fait partie de la vie privée des présidents, leur maladie, mais en même temps un président malade c'est un fait politique, donc c'est impossible de ne pas en parler. Mais imaginons aujourd'hui un président malade avec les réseaux sociaux, ça serait quasiment, je dis malade gravement, ça serait quasiment ingérable. Alors, on a la chance d'avoir un président de 39 ans donc qui a priori est en pleine forme.
À l'instant, c'était le journaliste Patrice Duhamel qui signe aux éditions Plomb avec Jacques Santamaria un essai intitulé « L'Élysée, histoire, secret, mystère », une nouvelle édition mise à jour, enrichie et illustrée. On va marquer une nouvelle pause musicale. Juste après, vous entendrez Denis Tillinac qui nous offrira une radiographie politique de la France du début du quinquennat Macron. Denis Tillinac qui était présent à cette 10e édition de Livre en Vigne avec un nouvel essai vivifiant intitulé « L'âme française », un essai qui appelle la droite à retrouver dans l'histoire de France ses racines spirituelles, intellectuelles, morales et esthétiques. Très bonne soirée à toutes et à tous, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion.
Let winter break, let it burn till I see you again. I will be here with you, just like I told you I would. I'd love to always love you, but I'm scared of loneliness when I'm alone with you. I know it's hard, is it over for me? Because I know it's over you. And I guess it is. My darling, I'll be rooting for you. And my darling, I'll be rooting for you. And where did she go? Truth left us long ago. And I need her. I should let it go, but all that is left is my perspective, broken and so left behind again. I know it's hard. Only you and I. Is it all for me? Because I know it's all for you. And I guess it is hell. And you are the only thing I ever truly want. So I hesitate if I can act the same for you. And my darling, I'll be rooting for you. Then my darling, I'll be rooting for you.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Je rappelle que vous retrouvez les références des ouvrages dont il est question ce soir sur le site d'archives de votre émission littéraire, www.yannickpetit.fr. Nous avons ce soir déjà entendu Jean-François Bazin, auteur du Vin de Bourgogne aux éditions Duno. Nous avons entendu le journaliste Patrice Duhamel pour l'Élysée, Histoire, Secret, Mystère aux éditions Plomb. Et cette fois-ci, nous avons, lors de Livre en Vigne, le 24 septembre dernier au château du Clos de Vougeot, nous avons tendu notre micro à Denis Tillinac, qui signe un nouvel essai intitulé « L'âme française », disponible aux éditions Albin Michel. Denis Tillinac qui revient sur le sens de cet essai, L'âme française, et qui va nous livrer une première approche politique du début du quinquennat de notre nouveau président Emmanuel Macron. Denis Tillinac sur Radion.
C'est une réflexion sur l'état assez calamiteux de la droite française. En France, il y a une droite et une gauche. Moi, je crois à la pertinence du clivage depuis au moins la Révolution française, plus probablement depuis la Réforme et les guerres de religion, qui déterminent deux façons de concevoir la liberté, deux façons de l'homme dans la cité, donc deux approches de la politique. Et la gauche a une culture des lieux symboliques, des grands ancêtres, des référents. Et c'est très bien, ça fait partie de la culture nationale et c'est plus que respectable. Alors la droite aussi, là aussi, le seul problème, c'est que ses dirigeants, ses notables, ne le savent pas, ne la connaissent pas, s'intéressent pas. Il y a une culture de droite, il y a des héros de droite, il y a des figures à la fois symboliques ou littéraires ou historiques. Eh bien, ils en font fi. Et donc, ils parlent d'économie et ils ne font pas rêver. Et donc, ils donnent la moitié de la France de droite se sent un peu orpheline de mythes, de légendes et de souffle. Vous voyez. Et donc, j'ai voulu restituer à la droite française ce qui lui appartient, c'est-à-dire son univers et son imaginaire.
Alors, hier soir, Denis Tillinac, nous parlions un peu du début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Quelle radiographie de la politique française faites-vous actuellement, et notamment avec ce jeune président, 39 ans, huitième président de la 5e République?
Bon, je regarde ça de loin, hein. Je n'ai jamais fait de politique, je m'intéresse à la politique en tant que citoyen, j'essaie de comprendre derrière les apparences d'une élection qui doit tout à quelques circonstances particulières. Macron a été très mal élu. Il n'a pas de base sociale autre que les cadres des grands centres urbains, plutôt favorisés par le sort économique, ouvert sur l'économie monde, mais ça fait pas grand-chose. Hein. La France des pauvres et des déclassés a voté Le Pen. La France des mal classés a voté Mélenchon. La France conservatrice, bourgeoise, plutôt de province, a voté Fillon. Bon, il a pris le reste. Alors à partir de ce moment-là, on construit une mythologie. Il faut essayer de voir la symbolique. Et donc, moi, après des débuts qui m'ont paru assez convaincants, parce qu'il a resacralisé un peu la fonction, la passation de pouvoir, tout ça, ça avait une certaine allure. On a l'impression qu'il est livré à des communicants et qu'un adolescent narcissique, un peu enivré de son propre pouvoir, comme ça, est entre les mains, au fond, quand même, des forces internationales de l'argent. Faut bien. C'est Mélenchon qui le dit, je crois pas qu'il ait complètement tort, avec, comme ça, une vision du monde ouverte à tout vent, délocalisée, décomplexée, ce que Régis Debray, dans ses dernières analyses, appelle une éthique protestante qui l'oppose à notre vieux fond catholique qui est en train de disparaître sous les formes laïques profanes qu'il avait connues depuis le 19e siècle, la patrie, le parti, éventuellement, pour la politique, quel qu'il soit, vous voyez, tout ça est en train de disparaître pour être un espèce de monde de réseau informel, transversal, difficile à définir et qui s'appelle la modernité. Moi, je me demande si tout ça finira pas mal parce que, parallèlement, pour la première fois depuis très longtemps, à la fois dans le monde, en Occident et en France singulièrement, l'écart entre les favorisés et les déshérités s'accroît, s'aggrave. Et je vois un certain essor de ce qu'on appelle la lutte des classes. Avec des mots de communicants et avec un espèce de baratin moralisant, on ne peut pas éternellement occulter le réel. Et le réel, c'est qu'un peuple déboussolé qui se sent dépossédé dans son sentiment d'appartenance à des lieux, à une mémoire, ne supportera pas volontiers ou pas longtemps d'être gouverné par, comme ça, un personnage issu d'un monde internet, comme ça, un peu sûrement brillant, un peu irréel, un peu artificiel. Il y a beaucoup d'artifices là-dedans. Et le réveil du président Macron pourrait être dur.
Il y a un parallélisme que l'on peut faire entre le parcours de Sarkozy, qui a été donc ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac et qui a été élu, et Macron, ministre de Hollande, bon, qui quitte le gouvernement et qui se retrouve élu avec une facilité déconcertante, alors que finalement, personne ne connaissait Emmanuel Macron.
Oui, le parallèle est...
On
peut tenter le parallèle, bon, parce que Sarkozy était passablement narcissique, il était... il a désacralisé la fonction avec un style, des foucades, qui lui a permis au début de dynamiser quand même. Hein. Il est parti sur un socle de droite identitaire de plus de 30% en 2007. Alors ce socle s'est dilapidé, puis il a fini par exaspérer, parce que, un peu comme Macron aujourd'hui, qu'on va parler tout le temps, être toujours comme ça, ne plus être président de la France, mais son rédacteur en chef, et intervenir à tout propos, ben ça use, ça use. La notoriété médiatique use, et elle use de plus en plus vite, parce que les stocks d'imaginaire tournent à une vitesse accélérée. Donc le parallèle s'arrête là. Sarkozy était encore le meilleur représentant pour sa génération de ce qu'on va appeler la droite, de façon générique. Est-ce que Macron arrive dans une configuration où provisoirement droite et gauche semblent un peu au bout d'un certain rouleau et essaie de se faufiler avec un discours finalement centriste, puisque la seule alliance politique qu'il a conclue c'est avec le MoDem, c'est-à-dire avec pas grand-chose. Je ne parle pas de la personnalité de Bayrou, qui est respectable. Je parle en tant que parti, c'est rien.
Mais un Premier ministre issu quand même de la droite.
Oui, un Premier ministre issu de la droite. Alors, gauche et droite vont se reconstituer. La social-démocratie, ce côté, se reconstituera. C'est des grandes et vieilles familles politiques. Et à droite aussi, ça se reconstituera. Et moi, je pense d'ailleurs qu'on pourrait très bien retrouver deux droites comme du temps du RPR et de l'UDF, une droite conservatrice, populaire, bonapartiste, cocardière, attachée à ses traditions, à son identité, et puis une droite plus européiste, plus libérale, ce qu'on appelle la droite orléaniste. Alors l'une sera très vraisemblablement conduite par Laurent Wauquiez à partir du mois prochain, l'autre, ben, ça peut être Valérie Pécresse, ça peut être aussi Édouard Philippe.
Alors,
s'il sait quitter le gouvernement à temps.
Il y a tout de même l'attitude des deux partis extrêmes, Mélenchon d'un côté et de l'autre le Front National. Alors, le Front National, on voit qu'actuellement il est en train d'éclater, enfin il y a de graves scissions à l'interne. Chez Mélenchon, lui, c'est l'union quand même, l'unité.
Effectivement, il est certain que le tripartiste auquel on assistait depuis une vingtaine d'années de par l'essor du Front National était une anomalie. Hein, puisque les institutions conçues par De Gaulle avec un scrutin uninominal majoritaire à deux tours s'étaient fait pour qu'il y ait deux forces politiques qui alternent. Cet essor du Front National est une anomalie. Alors est-ce qu'elle va disparaître? Je dirais que c'est la mission historique de Wauquiez, s'il est élu en décembre président du nouveau parti de droite, de lui reprendre les deux tiers de ses voix, de reprendre les voix de Dupont-Aignan pour retrouver quelque chose de plus normal, un RPR des années 70 et 80. Il réussira ou il réussira pas. Pour le moment, le Front National est en difficulté parce que de l'aveu propre de Madame Le Pen elle-même, dit ce qui nous manque, c'est un contenu. C'est un aveu terrible. Elle a dit ça hier. Un contenu, c'est-à-dire un contenu politique. C'est une ligne, une politique, tout simplement. Donc, à voir, puisqu'à scission avec Philippot, qui donnait l'impression d'avoir défini la ligne depuis quelques années et d'avoir aidé à dédiaboliser le parti.
Puisque
ce social, très étatiste, il se posait comme un disciple d'un chevènement plus ou moins gaulliste. Bon, ça c'était très bien pour dédiaboliser le parti, mais ça posait des problèmes à une droite conservatrice et libérale, de classe moyenne, que l'hypothèse d'une sortie de l'euro a épouvanté, ainsi que les retraités. Donc, à voir. Mais normalement, la tâche historique de Wauquiez, c'est de, sinon de le faire disparaître, de le marginaliser. À l'extrême gauche, on est orphelin du Parti communiste. Il y a toujours une gauche robespierriste dans ce pays depuis la Révolution. Une gauche radicale. C'était les communistes pendant longtemps, c'est plus les communistes. Il y a eu un petit coup d'Arlette Laguiller, Besancenour. On sentait bien qu'il y a un espace qui était à prendre. Alors Mélenchon l'a investi avec énormément de talent. On a l'impression de... Là, avec lui, on n'est pas dans le monde irréel de Macron. On est dans le monde historique de l'histoire de France et on a l'impression d'entendre Danton. Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Alors, est-ce que sa psychologie un peu agressive, un peu tendue, qui donne l'impression d'avoir des rapports difficiles avec ses alliés, va lui permettre ou pas de recréer un grand parti de gauche radicale dans ce pays? C'est une des deux ou trois problématiques pour les 15 prochaines années.
C'était Denis Tillinac rencontré le 24 septembre dernier en Côte d'Or au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon à l'occasion de la 10e édition de Livres en Vigne, première fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. Je rappelle le titre de l'essai de Denis Tillinac, L'âme française, disponible en librairie aux éditions Albin Michel. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'espère que vous avez passé une instructive et agréable soirée à l'écoute de Wagon Livre sur Radion. Je vous donne pour ma part rendez-vous mercredi prochain, 25 octobre. À ce même micro, nous aurons Cécilia Duterre qui signe aux éditions du Cerf une biographie littéraire consacrée à une écrivain catholique américaine, une écrivain catholique du Vieux Sud qui a écrit de nombreuses nouvelles et des romans. Alors, ses nouvelles les plus connues, mentionnons La sagesse dans le sang ou encore Et ce sont les violents qui l'emportent. Et puis, il y a Les braves gens ne courent pas dans les rues. C'est le titre d'une de ses nouvelles les plus célèbres. Il s'agit de l'écrivain américain Flannery O'Connor, à laquelle Cécilia Duterre a consacré une biographie littéraire intitulée Flannery O'Connor, Dieu et les gallinacées. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres aujourd'hui sur Radion. Très bonne fin de soirée à l'écoute des programmes de votre radio locale et puis rendez-vous bien sûr mercredi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre avec Cécilia Duterre pour évoquer l'écrivain américain Flannery O'Connor. Au revoir à toutes et à tous. Merci, à très vite.